Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Décrire, mesurer, peser, comprendre, découvrir et s'amuser. C'est à tout cela que nous vous invitons aujourd'hui pour cette émission où santé rime avec curiosité. Décrire les interactions, les mécanismes, l'incroyable complexité de notre organisme. Mesurer nos 200 km d'artères, 8 mètres de tubes digestifs, dénombrer les os qui composent notre corps, ils sont au nombre de 206. Et pour les muscles, eh bien, ça grimpe jusqu'à 639. Soupeser son foie, 1,5 kg, cet organe qui à lui seul assume pas moins de 300 fonctions vitales. Comprendre le rôle de la salive, on en sécrète près d'un litre, oui un litre par jour. Découvrir que les gorilles voient en trois couleurs, mais qu'en dehors de l'homme, eh bien, la plupart des mammifères ne distinguent que le bleu et le vert. Et s'amuser d'anecdotes historiques, d'informations improbables, comme par exemple que la chair de poule est provoquée par la contraction des muscles horripilateur et que la première membrane employée pour une dialyse, pour filtrer le sang d'un malade des reins, a été réalisée à travers d'un cellophane utilisé pour confectionner des saucisses. Décrire, expliquer le fonctionnement, illustrer d'exemples qui marquent l'esprit et nous éclairent sur l'harmonie merveilleuse de la vie, c'est donc ce que proposent ces petits et grands secrets de nos organes. Petit et grand secret de nos organes, c'est le sous-titre de votre livre intitulé « Les mystères du corps humain » publié chez Odile Jacob. Professeur Bernard Sablonnière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin biologiste, professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'Université de Lille, également chercheur à l'INSERM où vous dirigez une équipe de neurogénétique au CHU de Lille. Les organes, et certains dédient leur carrière à l'un d'entre eux, pour le professeur Éric Vibert, eh bien, c'est le foie. Le professeur Vibert, chirurgien digestif, spécialiste des maladies du foie et des voies biliaires au centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse à Paris. Le fonctionnement du corps, au centre également de la pratique du professeur Nafi Ouedraogo, maître de conférence agrégé de physiologie à l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université de Nazi Boni. Professeur Ouedraogo, qui est aussi médecin du sport au service d'imagerie et d'exploration fonctionnelle au CHU Sourou Sanoua Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Et puis en fin d'émission, la canne côté cœur, une rencontre, un échange avec la présidente de l'association camerounaise Triso Evi, Yolande Epi-Boimé. Elle a fondé cette association qui défend les droits des enfants touchés par la trisomie 21.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Sablonnière, votre livre apporte une quantité incroyable d'informations sur le corps humain. On y retrouve pas mal d'anecdotes, des clins d'œil qui prêtent parfois à sourire. J'imagine que c'est cela que vous vouliez faire passer comme esprit, une forme de gai savoir, mais quand même si j'ai souligné pas mal de choses plutôt amusantes tout à l'heure, avec beaucoup de savoir.
Oui, parce que passer en revue le fonctionnement de presque tous les organes en essayant d'y découvrir l'essentiel, ce qui peut intéresser, ce qui peut amuser et ce qui peut ramener aussi à certaines découvertes importantes.
Alors, non pas comme une liste, non pas comme une sorte de, finalement, d'inventaire de ce qu'il y a dans notre organisme, mais bien des petites histoires à chaque fois qui ont une sorte de réalité en elles-mêmes, professeur Sablonnière. C'est vrai que c'est foisonnant et ça a une dimension extrêmement pédagogique. Ça pourrait donner pas mal d'idées à des profs qui enseignent la biologie.
Absolument, oui. Ça permet de voir de façon plus simple et même dès le lycée comment fonctionne le corps humain.
Alors, un livre qui permet de comprendre beaucoup de choses. Votre top 20 des organes, c'est l'expression que vous employez. Les interactions, les rouages. Également, parler de certaines inventions qui restent employées aujourd'hui. Par exemple, on va justement citer des passages concrètement, mais ça va permettre aux auditeurs de découvrir la petite histoire de la grande histoire de la médecine. 1818, comment l'idée du stéthoscope, cet instrument qu'on voit toujours, la blouse blanche, le stéthoscope, c'est vraiment la panoplie de base du médecin. Comment cette idée est-elle venue à son inventeur, qui donne d'ailleurs aujourd'hui son nom à pas mal de bâtiments dans les hôpitaux français?
Oui, bah, l'idée, c'était qu'à l'époque, en fait, les médecins commençaient à se rendre compte que si on voulait détecter un peu mieux les maladies pulmonaires, il fallait coller son oreille sur la poitrine de son patient. Et évidemment, l'idée de ce médecin, de ce grand médecin, ça a été de dire « oui, mais c'est peut-être un peu plus pratique et on pourra mieux isoler le son qu'on va entendre à travers la paroi du thorax par un petit tuyau en bois, tout simplement. » Et c'était le premier stéthoscope.
Et ce grand médecin, c'était René Laennec. Et donc, je disais, pas mal d'hôpitaux qui ont son nom. Hein, quand on arrive, on cherche, on va aller en cardio, on va aller en chirurgie. Où est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le bâtiment Laennec, justement. Et dans ces temps forts de l'histoire de la médecine, on réalise aussi qu'il y a pas mal de hasards. Un autre exemple que vous citez, professeur Sablonnière, un des médicaments employés en cardiologie qui a été découvert dans un tout autre contexte. La dynamite, le lien entre les deux, c'est quoi ?
Oui, alors la dynamite, c'est étonnant parce que bah, tout le monde connaît Alfred Nobel, hein, donc bien sûr le premier primé grâce à l'invention de la nitroglycérine, la dynamite. Et en fait, lorsqu'il a fait sa leçon, son remerciement en recevant son prix, il a conclu que ça ne devait pas être mauvais puisque son médecin cardiologue lui donnait des gouttes de nitroglycérine. Et cette nitroglycérine en très petite quantité va libérer un gaz qu'on appelle l'oxyde d'azote. Et cet oxyde d'azote va permettre de dilater les vaisseaux du cœur et donc de soulager ce mal de poitrine qui est caractéristique du début d'un infarctus.
Et professeur Sablonnière, il y a un élément très important dans votre livre, parce que vous disiez 20 organes, mais c'est bien les interactions entre ces différentes parties du corps, une interaction extraordinaire, mais pas parfaite. La preuve, on tombe malade. Et c'est vrai qu'un certain nombre de maladies sont la démonstration un peu paradoxale de la réussite de ces organes. Tout va bien jusqu'au moment où...
Oui, alors l'expression « tomber malade » vient aussi du fait que le cerveau est là pour diminuer les signaux de motivation, les signaux d'envie d'énergie, les signaux d'envie de bouger. Et c'est lui qui va nous dire « il est temps de se reposer » et qui va baisser la motivation, baisser l'envie et forcer à se reposer. Tout ça, c'est une question de clé chimique que le cerveau cesse de fabriquer et de libérer lorsqu'il se rend compte qu'il y a plusieurs organes qui souffrent et qu'il est temps de se reposer.
Alors, beaucoup de chiffres dans ce livre, j'en citais quelques-uns tout à l'heure, 8 mètres de type digestif, là, on sait que ce n'est pas simple ce qui se passe à l'intérieur de nos tripes, on va dire. Mais lorsque vous révélez que nos os contiennent 2 kilos de moelle, moi, j'ai une question qui va peut-être vous paraître bizarre. Qui c'est qui a eu l'idée de procéder à tous ces calculs improbables ? Parce que la moelle, c'est intéressant quand on fait un pot-au-feu, mais franchement, au-delà, savoir qu'on a 2 kilos de moelle dans le corps, c'est plutôt bizarre.
Alors, bon, il y avait les anatomistes dans les temps jadis qui disséquaient beaucoup. Et puis maintenant, on a des techniques d'imagerie qui permettent de repérer précisément la quantité de moelle grasse, donc de cette graisse des os, qu'on peut ainsi quantifier dans l'ensemble du corps humain.
On disait tout à l'heure, bien connaître le corps pour bien se soigner. On voit aussi que bien comprendre le fonctionnement de ces organes, connaître cette anatomie, ça permet aussi, le cas échéant, de remplacer certains organes, d'imaginer, de maîtriser des technologies. C'est ce dont vous parlez en évoquant la circulation extracorporelle mécanique, cœur-poumon artificiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, un cœur-poumon artificiel ?
Alors, un cœur-poumon artificiel, c'est qu'on est obligé de subvenir à un défaut de ventilation, donc défaut de fonctionnement des muscles qui actionnent la cage thoracique pour faire rentrer l'air et le faire sortir. Et puis, évidemment, souvent associé à la circulation extracorporelle, lorsqu'on a vraiment besoin d'intervenir sur le cœur, où à ce moment-là, bien sûr, le cœur ne pompe plus et on met une pompe extérieure qui est bien sûr ralliée au plus gros vaisseau à la fois pour l'entrée du sang et la sortie et qui permet pendant ce temps-là d'intervenir sur ces organes vitaux que sont le cœur et le poumon.
Et même quand on est professeur, on reste curieux. Gabriel, auditeur de Boucavou, il partage cette curiosité. Il écrit sur la page Facebook de l'émission, je lis son message, « Le grand mystère du corps humain que je trouve fantastique, c'est le système nerveux. Ce dernier est considéré comme le moteur du corps humain, car c'est lui qui régit tout le fonctionnement de l'organisme. Alors je me tourne vers vous, professeur Bernard Sablonnière. Qui est maître à bord finalement? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le système nerveux, comme le dit Gabriel de Boucavou? Ou même le microbiote intestinal dont on parle de plus en plus?
Ben justement, c'est ça qui est remarquable, c'est que le bon fonctionnement d'un corps humain, c'est une coopération, c'est une société d'organes. Alors c'est vrai que le cerveau, je dirais plutôt que c'est le chef d'orchestre, parce qu'il donne beaucoup d'ordres, mais si le cœur s'arrête, le cerveau ne recevra plus d'oxygène et ne fonctionnera plus au bout de 3 minutes. Donc les deux sont vraiment reliés, même s'il est vrai que c'est le cerveau qui envoie la plupart des messagers importants à tous les organes. Alors le microbiote, c'est plus étonnant, c'est une découverte beaucoup plus récente, d'une petite dizaine d'années, où finalement ces milliards de bactéries qui représenteraient la taille d'un melon à peu près, coopèrent avec le cerveau parce qu'elles fabriquent des messagers chimiques qui ressemblent beaucoup à ceux qui sont fabriqués par le cerveau. Donc il y a des échanges. Et quelquefois, quand on a des troubles digestifs, quand on a un déséquilibre alimentaire, on peut percevoir une forme de lassitude, de fatigue. Ça peut être lié au fait que les bactéries fabriquent des messagers qui vont entraîner un dysfonctionnement du cerveau, un ralentissement, une perte de morale, etc.
Alors, cette connaissance du corps, et on va prendre le temps de nous arrêter sur l'un de ces organes, le foie, pour ne pas le nommer avec un spécialiste. Professeur Éric Vibert, bonjour.
Bonjour.
Nous avons enregistré cet entretien. Vous êtes professeur de chirurgie digestive et spécialiste des maladies du foie et des voies biliaires à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Alors l'organe qui occupe l'essentiel de votre temps, professeur, c'est donc ce foie. Est-ce que finalement c'est un organe assez méconnu au regard de son importance dans le fonctionnement de notre corps ?
Oui, c'est un organe qui est méconnu parce que mystérieux, avec des capacités encore à découvrir. Et c'est un organe vital. C'est un organe vital qui est à la fois un organe qui permet de filtrer ce qui arrive du tube digestif et qui est capable de synthétiser des protéines et qui est quelque chose qui protège le cerveau. Et pour être très très honnête, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'on a une maladie du foie très grave, on a un cerveau qui dysfonctionne. Et typiquement, ça fait partie des mystères du foie. Donc oui, c'est un organe qui est un organe très mystérieux et sur lequel il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Ça veut dire que vous continuez d'apprendre à son sujet ?
Oui, on continue d'apprendre à son sujet, on continue d'inventer à son sujet, puisqu'en fait, on utilise ses capacités, en particulier ses capacités de régénération. Le foie a la particularité de pouvoir en repousser. Alors, il ne repousse pas comme la queue d'un lézard, il repousse en s'hypertrophiant de manière compensatrice d'une partie qui est malade ou d'une partie qui a été enlevée, comme par exemple le bras d'un tennisman s'hypertrophie lorsqu'on joue beaucoup avec. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on met à profit pour faire de la chirurgie du foie.
Est-ce que les malades, les patients qui viennent vous consulter parce qu'ils ont une défaillance hépatique, un problème au foie, est-ce que ces patients sont curieux du fonctionnement de cet organe ou à l'inverse, ils vous disent, docteur, soignez-moi, comment ça marche, je ne veux pas le savoir?
Non, les malades sont toujours curieux de comprendre leur maladie et je pense qu'il est de notre rôle de médecin d'apporter non pas uniquement de l'information médicale mais de la connaissance. Et moi, par exemple, j'ai développé à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif des applications qui sont là pour pouvoir expliquer comment fonctionne le foie, comment se développent les maladies du foie et quels sont les traitements des maladies du foie.
Vous êtes chirurgien, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie des organes, de prestige, par exemple au moment des choix des spécialités au cours des études de médecine, les super-organes et puis les organes qui sont un petit peu laissés de côté?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie des organes. Il y a toute une symbolique autour de la chirurgie cardiaque. La chirurgie hépatique a quelque chose d'exceptionnel, c'est que c'est une chirurgie qui se planifie, qui se pense beaucoup avant d'être réalisée, et c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment quelque chose qui se fait au contact des collègues médecins, et en particulier des collègues hépatologues, donc les médecins qui soignent le foie. Et moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un hépatologue qui opère, c'est-à-dire que je connais très bien les maladies du foie, et je fais de la chirurgie du foie. Et je pense que c'est impossible d'être un chirurgien du foie ou un transplanteur du foie sans connaître parfaitement bien les maladies du foie. Donc voilà, la chirurgie du foie, c'est que chez une chirurgie qui est une chirurgie vitale, où on soigne vraiment des cancers du foie, où on sauve la vie des gens, c'est une chirurgie qui est une chirurgie où on peut envisager des transplantations. C'est en plus une situation où on peut faire des transplantations, dans certains cas, avec des donneurs vivants. Non, c'est un organe exceptionnel. Bon, je pense que vous avez posé la question à un neurochirurgien ou un chirurgien cardiaque. Il rachètera les choses dans un ordre inverse.
Dans sa propre optique, est-ce que certaines fausses croyances concernent encore le foie auprès du grand public ?
Oui, je pense qu'il y a un mot, par exemple, qui est un mot qui est dangereux, c'est le mot de cirrhose, parce que il n'y a pas que l'alcool qui donne des cirrhoses. Et ça, je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce que dès qu'on dit que quelqu'un est cirrhotique, on pense que quelqu'un est alcoolique. En fait, la cirrhose, il y a plein de causes à la cirrhose. Il y a évidemment l'alcool, mais pas que. Il y a le virus B, le virus C. Il y a une maladie qui s'appelle la NASH, qui est une association, en fait, inflammation du foie, donc on ne connaît pas d'ailleurs très bien l'origine, plus une infiltration graisseuse du foie. Il y a certaines maladies métaboliques comme la maladie de Wilson, il y a certaines maladies auto-immunes comme la cirrhose biliaire primitive qui peuvent donner des cirrhoses. Donc c'est vraiment, il faut faire très attention à ce terme de cirrhose. Et il y a des gens qui ont honte d'avoir une cirrhose parce qu'on peur qu'on les considère comme alcooliques et qui ne se surveillent pas. Et en fait, c'est grave parce que le fait d'avoir une cirrhose sans être surveillé, eh bien, ça entraîne de découvrir dans certains cas des maladies, en particulier cancéreuses, trop tardivement, qui ne peuvent plus être traitées de manière curative. Et donc, les gens meurent parce qu'ils ont eu honte de dire qu'ils avaient une cirrhose, même si en plus, dans certains cas, ils ne sont pas alcooliques. Et même s'ils sont alcooliques, la cirrhose alcoolique et l'alcoolisme en particulier est une maladie comme les autres qu'il faut traiter. Et donc, ce n'est pas un drame d'être alcoolique à partir du moment où on le sait et qu'on le traite.
Donc, il faut retirer tous ces tabous autour du foie. Dernière question, professeur Vibert. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aborder l'apprentissage, la pédagogie du corps et des organes, c'est un levier important pour la prévention ?
Oui, je pense que là, on est arrivé au bout d'un système qui est la médecine curative. On voit aujourd'hui que les hôpitaux sont à bout de souffle parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, c'est très bien. On connaît de plus en plus de maladies, les traitements sont de plus en plus chers. Donc en fait, on est dans une situation où finalement, on n'a pas assez de moyens pour prendre en charge les malades quand ils sont vraiment malades. Et donc, il faut être capable de prévenir la situation et de découvrir les maladies très, très précocement ou d'éviter qu'elles se développent. Donc je pense qu'il faut inventer de manière beaucoup, beaucoup plus claire, une médecine préventive et faire de la santé publique au sens propre du terme. Et pour ça, il faut que les gens comprennent comment fonctionne le corps humain. Donc, il est absolument indispensable de donner aux gens la possibilité de comprendre. Et finalement, je vous dis, la médecine, c'est quand même pas absolument diabolique de compréhension, parce que finalement, c'est jamais que des tuyaux dans lesquels coulent des substances, avec des tuyaux qui peuvent se sténoser, fuir, se boucher. Et on peut assez facilement comprendre la médecine si on ne va pas trop trop loin.
Merci beaucoup professeur Vibert. Vous êtes l'auteur du « Droit à l'erreur, devoir de transparence » publié aux éditions de l'Observatoire. Professeur Bernard Sablonnière, est-ce que, à ce titre, après ce qu'on vient d'entendre, votre livre « Les mystères du corps humain » pourrait être, on va dire, un ouvrage de prévention en santé ?
Oui, on peut prendre un exemple qui m'est venu à l'esprit là, pendant que j'entendais professeur Vibert. C'est un certain nombre de risques liés au surpoids auxquels les gens ne se rendent pas compte. Bon. Vous savez que le surpoids... quasiment, disons, la limite de l'obésité ou la pré-obésité est un facteur de risque d'aggravation d'une infection liée au Covid. Eh bien, la raison est très, très simple, même si je simplifie et je donne l'explication principale, c'est qu'on a des fonctionnaires de la défense qui s'appellent les macrophages. On en a beaucoup dans les différents organes et un peu comme des soldats sentinelles, dès qu'ils sentent qu'il y a une inflammation qui survient, hop, ils sont activés et ils sont prêts à lancer des missives, des armes chimiques pour signifier à tous les organes qu'il y a une inflammation quelque part. Bon. Eh bien, plus vous êtes en surpoids, plus ces macrophages sont activés. Donc évidemment, dès qu'il y aura un virus ou une bactérie qui va rentrer, eh bien, ils vont s'activer beaucoup plus fort que chez quelqu'un qui a un poids normal ou qui n'est pas obèse. Et donc, le risque des conséquences inflammatoires liées au Covid est bien supérieur chez ces personnes-là. Donc, ça ouvre la voie à cette médecine vraiment préventive où il faut faire attention à ce qu'on mange. On a presque 25% de personnes en surpoids en France, c'est beaucoup trop. Il faut y faire attention dès l'âge de 35-40 ans parce qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on accumule cette espèce d'inflammation chronique qui peut favoriser donc, et augmenter le risque d'un certain nombre de maladies ensuite.
Facteur de vulnérabilité. Alors la connaissance des organes. Et puis, parmi les organes, on va dire, les plus complexes, parce qu'on n'a pas fini d'en découvrir les ressorts, c'est bien sûr le cerveau. Professeur Sablonnière, anecdote au sujet de ce cerveau, anecdote émouvante dans votre livre, avec ses notes de musique. Là, je pense que vous allez me voir venir, professeur Sablonnière. C'est la merveilleuse histoire de cette femme muette guérie par la musique que vous racontez. J'aimerais que vous la partagiez avec les auditeurs de l'émission.
Oui, alors, effectivement, cette femme qui souffrait d'une aphasie, elle retrouvait plus ses mots suite à, bien sûr, une thrombose dans une partie du cerveau. Donc, le circuit de neurones concernant la préparation des mots ne fonctionne plus. Et on lui fait passer la chanson « Fleur bleue » de Charles Trenet.
On entend, on va faire remonter le son pour bien entendre.
Et au bout de quelques minutes de séance avec cette chanson, progressivement, elle va retrouver la parole, ce qui est tout à fait étonnant. Alors ça, c'est la capacité du cerveau à remplacer un circuit défaillant par un autre, c'est-à-dire un autre circuit qui était prêt à fonctionner pour essayer de donner cette fonction de la parole, retrouver ses mots, qui pendant des années a été mis au repos et d'un seul coup est réactivé parce que le vrai circuit qui fonctionnait jusqu'ici est altéré.
Réactivé de façon durable ?
Oui, ça peut être réactivé de façon durable. On sait que chez chacun d'entre nous, le centre de la parole est latéralisé, soit à droite, soit à gauche. Mais en cas de problème, l'autre côté peut bien sûr subvenir à une défaillance de l'autre côté du cerveau.
Alors, pour rendre à César ce qu'il y a à César, ce qu'on a entendu, bien sûr, c'était Charles Trenet, Fleur bleue, ça remonte quand même à 1937. Là aussi, il faut avoir bonne mémoire. Justement, sur cette mémoire, ce cerveau, là, vraiment, on peut dire, professeur Sablonnière, le champ des connaissances n'arrête pas de s'étoffer, notamment grâce à la technologie, aux nouvelles technologies, à l'imagerie, on y pense forcément.
Oui, absolument. L'imagerie actuelle, avec une résolution extrêmement élevée, permet notamment de mesurer une petite structure du cerveau qui ressemble à ce petit animal marin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hippocampe. C'est une petite circonvolution située derrière les oreilles, qui a la taille d'un morceau de sucre. Et c'est vraiment, finalement, un capteur d'informations mémorisées et qui permet de les ressortir et donc de dire qu'on se souvient de quelque chose, on va réexprimer un fait qui a été vécu. Eh bien, cet hippocampe, c'est cette petite partie du cerveau qui va souffrir énormément, notamment lors des démences comme la maladie d'Alzheimer. Et maintenant, grâce à l'IRM, on peut mesurer très précocement même une baisse de 2-3% du volume de cet hippocampe qui va être le témoin qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là du cerveau, qui a un début de dégénérescence, une perte de neurones dans cette région du cerveau.
Professeur, on va poursuivre cet échange dans quelques minutes. On va se retrouver juste après Stevie Wonder. Superstition.
Let's
Priorité Santé sur RFI pour découvrir les organes, les fonctions de notre anatomie. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Bernard Sablonnière, médecin biologiste qui nous dévoile les mystères du corps humain dans son livre publié chez Odile Jacob. Décrire, expliquer comment ça marche, illustrer avec des anecdotes, une approche plutôt ludique, mais bien sûr scientifique. Est-ce que pour vous, professeur Bernard Sablonnière, cette façon de présenter la science simplement, à la portée de tous, c'est aussi un moyen de lutter contre la désinformation dans le domaine scientifique et, on l'a entendu hein, depuis 2 ans sans cesse, dans le domaine de la santé?
Oui, absolument, parce que souvent on va utiliser un fait, une recherche récente, une découverte en pointant du doigt un détail sans remettre les choses dans le contexte et finalement l'information est détournée de son origine, de son contexte, de sa vraie signification et elle aboutit à une méconnaissance ou une mauvaise information qui circule ensuite sur les réseaux sociaux.
Et c'est vrai en médecine, hein, quand on essaye d'expliquer, vous l'avez fait tout à l'heure avec les macrophages, comprendre les attaques contre l'organisme, comprendre les remèdes contre les inflammations, les infections, cette fameuse notion d'immunité. Alors bien sûr, il y a des scientifiques qui y consacrent leur vie entière. Certains croient avoir tout compris en 2 secondes sur Facebook. Aujourd'hui, cette mécanique de la défense immunitaire donne lieu à des polémiques, on va dire, inédites. Est-ce que c'est une réflexion qui vous anime, cette remise en question, cette contestation de la parole scientifique dont on parle quasiment de façon quotidienne, peut-être aussi sur une plus longue période, sur cette façon de vulgariser de façon plus intelligente. Est-ce que c'est quelque chose qui manque dans l'espace public, que ce soit par exemple à l'école ou dans les médias ?
Oui, je pense que ça manque dans l'espace public parce que les bases qu'on a tous appris en sciences naturelles, à l'école, etc., sont largement dépassées du fait de la vitesse de l'évolution des connaissances médicales et des connaissances scientifiques. Donc c'est utile de temps en temps de refaire un peu une mise à jour. Et en ce sens, bien sûr, on connaît des tas de choses nouvelles, comme j'évoquais tout à l'heure avec les macrophages et le risque d'inflammation lié au surpoids. C'est des choses qu'on connaît depuis relativement peu de temps.
Alors, il y a une nécessité de transmettre cette connaissance scientifique, bien sûr, dans les amphithéâtres, bien sûr, dans des livres comme le vôtre, mais également de s'adresser à de nouveaux publics par le biais d'autres médias.
Oui, bien sûr. On peut le faire aussi par le biais de conférences ou d'informations délivrées dans des universités du temps libre, des choses comme ça, que ce soit pour le tout public ou pour d'autres types de publics. C'est tout à fait possible.
Au début, l'idée de ce livre, parce qu'on se parle depuis bientôt une demi-heure, vous avez derrière vous des dizaines et des dizaines de pratiques. Vous voyez ça, je ne vais pas dire comme une sorte d'héritage, mais c'est quand même un petit peu la somme de plein d'énormément de savoir, d'années de pratique. Comment ça vient, l'idée de faire ce condensé de savoir pour tous ?
Bah peut-être c'était l'occasion pour moi de me souvenir de mes études de médecine et puis grâce à l'expérience pédagogique que j'ai obtenue, puisque pendant plus de 30 ans, j'ai fait des cours en première et en deuxième année de médecine. Donc la capacité à resynthétiser tout ça et à le rendre digeste, le rendre accessible, le rendre simple et puis assez amusant, oui.
Alors, je disais tout à l'heure, faire passer la bonne information, ça veut dire aussi lutter contre les fausses croyances. Et c'est vrai qu'en matière de santé, il y a énormément de fausses croyances qui circulent. Et là encore, pour le meilleur et pour le pire, par le biais notamment des réseaux sociaux et d'Internet. Est-ce qu'il vous vient à l'esprit, puisque vous parlez beaucoup de ces organes, d'un certain nombre de fausses croyances qui peuvent aussi conduire à mal se soigner ?
Oui, alors parmi les fausses croyances, on a beaucoup de choses concernant les compléments alimentaires, notamment une espèce de phobie ou de manie d'utiliser des aliments détox. Alors, c'est assez ridicule parce que les substances concernées, si elles ont un petit effet, elles exercent leur effet lorsqu'elles sont mélangées à tout un tas d'autres substances que les gens du public connaissent pas. On peut prendre l'exemple des extraits d'artichaut qui en principe, d'après ce qu'on en dit, détoxifie le foie. Mais le foie, c'est lui qui détoxifie le corps humain. Donc lui-même n'a pas besoin d'être détoxifié. Donc il y a déjà une mauvaise prise de conscience. Et puis après, évidemment, ce bourré d'extraits d'artichaut va finalement entraîner au contraire un risque de toxicité, à la fois pour le foie et pour d'autres organes, parce que ça sera beaucoup trop que ce qu'il faudrait. Donc je pense qu'en ce sens, le mieux, c'est... Parmi les compléments alimentaires, de se dire qu'il n'y a aucun champion dans ces compléments. C'est pareil avec ces publicités qui vantent les bénéfices des vitamines, notamment des vitamines de groupe B, comme si les vitamines étaient capables de vous booster votre énergie, alors que ce n'est absolument pas possible. Les vitamines sont juste une petite aide chimique au fonctionnement d'un certain nombre d'enzymes du corps humain. Et cette aide chimique, elle peut simplement être apportée par une alimentation équilibrée.
Alors, les questions qui passionnent nos confrères et nos auditeurs, par exemple, Nicolas de Kinshasa, il s'interroge sur le lien entre le cerveau et le langage. Et il pose cette question, comment le cerveau de l'enfant apprend-il à parler ? Nicolas qui se demande encore, comment est-ce possible qu'un enfant soit capable d'apprendre plusieurs langues à la fois ? C'est vrai qu'il y a toutes ces questions qu'on se pose quand on est jeune, quand on est enfant, on les adresse parfois à des professeurs qui sont un peu perplexes et qui répondent par facilité peut-être, tu chercheras la réponse toi-même et tu la présenteras à tes camarades. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Nicolas donc, de RDC qui s'étonne de notre capacité tout simplement à parler?
Oui, alors ça, c'est remarquable. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs phases dans l'apprentissage au niveau du cerveau, comme si le cerveau décidait quel type de réseau, de circuit de neurones. On a presque 100 milliards de neurones dans le cerveau. Et il y a des fenêtres au moment du développement où, au départ, c'est plutôt la coordination visuelle, puis la coordination motrice, et puis, peu de temps après, l'aptitude, l'aire du cerveau responsable du langage qui va s'activer, c'est-à-dire qu'on va multiplier un très très grand nombre de connexions cérébrales pour permettre de parler. Alors, la grande capacité humaine à pouvoir posséder un langage articulé extrêmement précis, c'est dû à un seul gène qui s'appelle FOXP2 et qui a été évolué chez Sapiens, alors que le même gène existe chez les gorilles, alors qu'ils ont une capacité de langage beaucoup plus limitée. Et ce gène va permettre une motricité des cordes vocales extrêmement fine, tout au moins beaucoup plus fine que ce qu'on trouve chez les primates, nos cousins. Alors, deuxième partie de la question, comment est-ce possible qu'un enfant soit capable d'apprendre plusieurs langues ? Eh bien, c'est là la richesse du cerveau, notamment dans ses aires associatives, cette capacité d'abstraction du cerveau humain qui est remarquable et qui peut lui permettre d'adapter sa capacité de parler à plusieurs types de signaux, donc issus de mots correspondant à des langues différentes.
On apprend avec vous, professeur, un autre regard à présent. On part pour le Burkina Faso.
RFI à Bobo-Dioulasso, 99.4 FM.
Professeur Nafi Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Alors vous êtes maître de conférence agrégé de physiologie à l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université Nasiboni. Professeur, avec notre invité en studio, avec le professeur Sablonnière, on explore donc ce corps humain depuis le début de l'émission. Et son livre commence d'ailleurs par un domaine qui vous passionne particulièrement, la reproduction humaine. Pourquoi ?
Allô ?
Oui, vous nous avez expliqué en préparant l'émission que vous étiez particulièrement passionné par ce domaine de la reproduction humaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Donc, merci bien Caroline pour la question. Donc, je disais en fait que la reproduction en fait humaine me passionnait parce que c'était un phénomène assez spécial et complexe, on dirait, qui nous permettait, nous, hommes humains et même les êtres animaux, de se reproduire. Donc, non seulement aux fonctions au niveau de notre organisme, à travers donc ce système génital dont nous possédons, nous les humains, et aussi le système endocrine. Et hormis cette reproduction, vu qu'elle permettait de donner une nouvelle vie donc, dans laquelle en fait, l'être humain va pouvoir se développer et constituer ses différents organes, qui vont chacun avoir son rôle spécifique pour nous assurer donc, le maintien de notre vie, et nous assurer donc ces fonctions vitales donc, qui sont essentielles donc, pour nous être humains vivants.
Et parmi donc, et vous citez des organes, est-ce que vous diriez que certains d'entre eux ont particulièrement un intérêt pour vous, on va dire, à part? Est-ce que vous avez presque un attachement à certaines parties du corps?
Donc, comme l'a dit le professeur Sablonnière, hein, le corps humain serait tout un ensemble qui va fonctionner ensemble. Donc, du coup, dire que l'on préfère, on a une préférence, ça va être assez compliqué.
Ouais.
Parce qu'ils sont tous interdépendants, ces organes qui constituent notre corps humain, là. Ils vont être interdépendants donc, pour nous maintenir en vie. Donc, c'est vrai, certes, dans mon quotidien, je fais beaucoup plus appel à l'appareil cardiovasculaire en tant que médecin vasculaire. Ici, donc, ce corps humain-là, on ne peut pas en fait, préférer une partie de ce corps à l'autre. Il l'a dit en début d'émission, le cerveau va être le chef d'orchestre. Mais sans l'appareil cardiovasculaire à côté, ce cerveau ne fonctionnerait pas. Et pareil, l'appareil digestif, sans l'appareil cardiovasculaire à côté de lui, pour lui permettre de transformer donc, ces aliments que nous allons manger en nutriments et les conduire à travers le cœur et les vaisseaux, nous ne fonctionnerons pas. Et sans l'appareil respiratoire à côté de cet appareil cardiovasculaire aussi, il y aurait une dysfonction. Parce qu'il faut que cet appareil respiratoire arrive à évacuer donc, tout ce qui est déchets, tels que le gaz carbonique, donc le dioxyde de carbone que nous connaissons tous, mais aussi à inhaler l'oxygène donc, qui va être essentiel donc, à notre système, à notre organisme entier. Et pareil toujours, sans l'appareil endocrinien ni génital, on ne se reproduirait pas. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont tous complexes, ils ont chacun leur rôle pour nous maintenir tous en vie. Et c'est tout un ensemble, c'est une interaction qui va nous maintenir en vie de ces différents organes-là. Donc dire qu'on a eu une... Certes, de par nos professions, nous allons préférer certains organes que l'on explore plus, mais ces organes-là sont tous interdépendants. Et il faut qu'ils soient tous sains, en bonne santé, tous ces organes-là, pour nous permettre de rester en vie.
En conclusion, professeur Ouédraogo, parce que la ligne se détériore un petit peu, la qualité technique, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela fonctionne de concert, mais en même temps, il y a des éléments qui peuvent interagir et être particulièrement nocifs. Vous vouliez citer le cas, par exemple, des médicaments falsifiés, des médicaments de la rue. Attention à ne pas abîmer ce bel ensemble en y introduisant des ennemis sans le savoir.
Exactement. Donc, à travers cet exemple des médicaments de la rue, en fait, je faisais illusion à cette posologie qu'on ne connaît pas de ces médicaments-là, qui peuvent être nocifs donc, pour notre appareil urinaire, notamment pour le rein. Donc, on ne sait pas à quelle dose ils sont faits, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils contiennent, quels sont les différents constituants de ces médicaments-là, et qui pourraient donc être toxiques pour le fonctionnement de notre organisme. Et quand on prend, nous, dans notre situation au Burkina Faso et dans de nombreux pays d'Afrique, ces médicaments de la rue sont la cause de plusieurs maladies donc, rénales, donc, qui finissent après en dialyse, parce qu'ils ont été, donc, ces médicaments de la rue, toxiques pour le système urinaire.
Et là aussi, ça rentre dans tous les programmes et tous les messages de prévention. On vous remercie infiniment, hein, professeur Nafi Ouédraogo. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Votre consoeur du Burkina citait tout à l'heure l'importance du système digestif. Et à ce propos, on a une question de Adi qui écoute, professeur Bernard Sablonnière, Adi qui écoute priorité santé en RDC. Cette question sur ce corps humain, sur le système digestif, il pose cette question. Comment l'estomac arrive-t-il à rejeter un aliment qu'il juge toxique? C'est vrai, par exemple, dans le cas d'intoxication alimentaire ou de produits impropres à la consommation. C'est vrai que c'est assez incroyable. Comment est-ce qu'il y a cette sélection, ce rejet? D'où vient cette intelligence de dire « va-t'en, mauvais produit, t'es pas bon pour le corps ».
Eh bien, c'est lié au fait que, comme on dit assez vulgairement, et ça a été mis en exergue dans les médias depuis 1 ou 2 ans, c'est qu'on a un deuxième cerveau. Ce deuxième cerveau, c'est un paquet de neurones, ça tiendrait dans une cuillère à soupe, et ces neurones sont répartis tout au long du tube digestif. Donc là, il y a des neurones à la fois dans la paroi de l'estomac, un peu plus dans la paroi de l'intestin, parce que c'est plus long, plus gros, qui détectent tout un tas d'anomalies pour prévenir le grand cerveau, le vrai, celui qui est dans la tête, pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, à ce moment-là, le cerveau, le grand, le vrai, celui qui est dans la tête, envoie des messages au tube digestif en disant « Non, non, là... Tu as avalé quelque chose qui ne va pas du tout, donc l'estomac se met à se contracter de façon très violente et on arrive à éjecter l'aliment toxique. Ou bien, au contraire, si c'est une intoxication alimentaire, eh bien, ça va entraîner une atteinte d'autres organes et parfois le déclenchement d'une maladie liée à cette intoxication, bien sûr.
Alors, la connaissance du corps, la connaissance de ces dérèglements, professeur Sablonnière, les variations génétiques, la réponse immunitaire, et quand tout ça s'emballe, quand tout ça se dérègle, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler des maladies auto-immunes, sans forcément que l'on comprenne ce qui se cache derrière ce double mot, ce mot valise, notamment dans les pays riches. Alors, on ne sait pas s'il y a plus de maladies auto-immunes parce qu'il y a plus de diagnostics et de modes de détection, ou parce que c'est une réalité par rapport à ce qui se passe au niveau de l'environnement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui interroge le monde scientifique.
Oui, alors effectivement, les maladies auto-immunes qui sont extrêmement variées, hein, l'une des plus connues, c'est le rhumatisme, hein, avec l'âge, voilà. Toutes ces maladies auto-immunes sont liées au fait qu'au fur et à mesure de l'évolution de Sapiens, eh bien, ces macrophages, ces gendarmes de la défense, là, ont aiguisé leur arsenal pour essayer de détecter, d'éliminer les intrus. Et donc, le système est vraiment extrêmement spécialisé et facilement activé lorsqu'un nouvel intrus arrive. À un point tel que si ce système n'arrive plus à détecter ce qui est soi, c'est-à-dire nos propres tissus, nos propres cellules, d'une cellule étrangère ou d'un organisme étranger, eh bien, on aboutit à une destruction de nos propres cellules et nos propres tissus qui donne ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Alors, actuellement, effectivement, il y a une augmentation de fréquence de ces maladies pour deux choses. D'une part, à cause de la malbouffe, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ça favorise l'activation d'un certain nombre de nos sentinelles de défense. Et la deuxième raison, c'est la longévité qui augmente, l'espérance de vie qui augmente et qui fait que le dérèglement du système immunitaire qui va entraîner finalement une mauvaise reconnaissance entre ce qui appartient à soi et ce qui appartient à des cellules étrangères, eh bien, ce dérèglement favorise l'arrivée avec l'augmentation de l'âge de ces maladies auto-immunes.
Merci pour cette dernière explication, professeur Bernard Sablonnière, et d'avoir répondu à notre invitation. J'appelle le titre de ce livre publié chez Odile Jacob, « Les mystères du corps humain, petits et grands secrets de nos organes ».
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
La canne côté cœur, c'est comme ça qu'on pourrait appeler la séquence suivante dans Priorité Santé. C'est en effet suite à une rencontre coup de cœur de l'un des journalistes de l'équipe des sports de RFI, Olivier Pron, qui couvre l'événement foot qui captive en ce moment le public africain et au-delà. Et bien cette rencontre du hasard qui a donné des frissons à Olivier, ça s'est passé à Yaoundé où l'on vous retrouve. Yolande Epiboimé, bonjour Yolande.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez fondé l'association Trisovie il y a maintenant 2 ans pour défendre les droits des enfants touchés donc par cette maladie génétique, différence génétique, la trisomie 21. Et si Yolande, vous avez entamé cette démarche, c'est parce que vous êtes même vous-même directement concernée. Hein. Vous êtes la maman d'un petit garçon, Nathanaël. Il a aujourd'hui quel âge ?
Nathanaël, il a aujourd'hui 6 ans puisqu'on est en 2022.
Et au bout de combien de temps vous avez su, vous avez compris que Nathanaël était différent, qu'il était concerné par la trisomie 21?
Déjà, lorsqu'il grandissait, il avait un retard d'acquisition au niveau, peut-être il n'arrivait pas à s'asseoir. Le cou qui ne tenait pas, tout ça a commencé à m'alarmer. Mais c'est exactement à l'âge de 3 ans que j'apprends d'un médecin que Nathanaël est porteur de trisomie 21.
Et on peut dire que c'est tardif, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, cette différence génétique, la trisomie 21, c'est plutôt encore mal connu.
Très mal connu et ça reste pour beaucoup considéré comme de la sorcellerie, donc c'est un sujet tabou.
Donc il y a une double approche et c'est bien ça qui est au centre de votre association, c'est en même temps lutter contre la stigmatisation et puis aussi apporter des informations très pratiques et très utiles aux familles, aux papas, aux mamans, aux enfants.
Oui, Caroline.
Et vous le faites comment justement avec les partenaires de cette association, les membres de l'association?
D'accord. Chaque 21 de chaque mois, on organise des sensibilisations sur tout l'étendue du territoire national. Et puis les parents, on les accompagne sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et pour l'intégration sociale des enfants.
Mmh. Ça se traduit concrètement par des réunions, par des consultations chez le médecin. Et puis aussi quelque chose qui est essentiel, c'est que les parents sortent de l'isolement. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Yolande, quand ils connaissent votre association, qu'ils voient d'autres enfants différents et que finalement ces enfants jouent ensemble et que ces enfants sont considérés comme des enfants comme les autres?
C'est un grand soulagement pour la plupart, Caroline, parce qu'il faut dire l'association Triso et Vie, c'est la première au Cameroun qui s'occupe essentiellement des personnes porteuses de trisomie 21, d'être accompagnée des parents qui partagent la même situation que nous, qui nous comprennent dans le silence, pour beaucoup, c'est la première guérison. Parce que l'enfant n'est pas conscient qu'il a la trisomie 21, c'est le parent qui doit accompagner l'enfant. Alors si le parent est mieux accompagné, l'enfant sera aussi mieux accompagné.
Alors, vous disiez, il y a des antennes de votre association dans plusieurs villes du Cameroun. Il y a aussi des familles qui viennent de plusieurs pays du continent. Et vous disiez tout à l'heure, c'est un tabou. On dit que les enfants sont des enfants sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ces croyances à l'encontre des enfants? Et expliquez-nous aussi, Yolande, pourquoi ça peut être dangereux pour les enfants, y compris pour leur sécurité.
Bon, déjà, parce que depuis le temps, je dirais qu'il n'y a pas eu une bonne approche scientifique de la trisomie 21. Du point de vue sanitaire, je crois qu'il y a encore du travail à faire. Du coup, quand on accouche un enfant trisomique au Cameroun, même sur le plan sanitaire, on nous fait comprendre que c'est l'échec, autant mieux faire un autre enfant parce que celui-là, il n'a pas d'avenir. Alors, le parent qui rentre avec cet enfant à la maison n'a même plus le courage de continuer à se battre parce qu'il ne connaît pas. Il est plutôt tenté de faire des pratiques telles qu'on dit ici, il faut mettre l'enfant au bord de la rivière, il va partir. On les amène chez des tradis praticiens, faire des affaires mystiques et tout. Donc, c'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. Il faudrait que...
Dès le début de la vie, on change de discours.
Voilà.
Et il y a beaucoup à faire et c'est ce que vous faites avec votre association. Yolande, énormément de terrains sur lesquels travailler. On va s'arrêter sur l'un des plus importants, évidemment, quand on pense aux enfants, c'est l'école. Si on revient à votre fils aujourd'hui, il va à l'école, Nathanaël?
Oui, Nathanaël va à l'école depuis qu'il a 3 ans parce que je pense qu'il a droit à l'éducation. Aujourd'hui, déjà, c'est la journée de l'éducation. Je voudrais dire à tous les parents d'enfants porteurs de trisomie 21 que qu'on le soit ou pas, on a droit à l'éducation.
On a le droit à l'éducation. Et quand on voit son enfant partir à l'école avec le petit cartable sur le dos, ça donne du baume au cœur. Nathanaël, ça se passe comment avec ses camarades à l'école?
Avec ses camarades, ça va plutôt bien parce que les enfants, ils ne sont pas conscients de la différence. Mais c'est nous, les adultes, qui faisons comprendre à nos enfants que celui-ci est différent de toi, il ne faut pas jouer avec lui et tout. Donc à l'école, ça va plutôt bien, parce que déjà, il faut dire qu'il est dans une école où la dame même qui est à l'école a un enfant trisomique. Elle a créé cette école justement pour ça.
Et ça permet une meilleure compréhension à tous. On vous remercie infiniment, Yolande, pour votre témoignage, d'avoir pris sur votre temps pour répondre à nos questions. Triso et vie au Cameroun, un exemple à suivre. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, à Sétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurent Hérault. Demain, on va parler de l'impact de la pollution sur la santé de nos poumons, pollution atmosphérique, gaz d'échappement, mais aussi pollution domestique, cuisinière à bois, combustion des ordures. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.